H.G. Wells, Le pays des aveugles, dernière partie. Ainsi Nunez devint citoyen du pays des aveugles. Les habitants cessèrent d'être un groupement impersonnel. Ils furent pour lui des individus avec lesquels il se familiarisa, tandis que le monde de par-delà les montagnes se perdait dans le lointain et l'irréel. Il connut surtout Jacob, son maître, homme bienveillant quand rien ne le contrariait, Pedro, neveu de Jacob, et Medina Sarote, la plus jeune fille de son maître. Celle-ci était peu prisée de ses compatriotes, parce qu'elle avait un visage aux traits nets et non pas cette face aplanie et flasque qui est l'idéal de la beauté féminine chez les aveugles. Nunez, dès le début, l'avait trouvée agréable, et bientôt elle fut pour lui le plus bel objet de la création. Elle différait des autres habitants de la vallée en ceci que ses paupières fermées n'étaient ni creuses ni rouges. On aurait pu croire à chaque instant qu'elles allaient s'ouvrir. De plus, elle avait de très longs cils, ce qui était considéré comme une grave difformité, et sa voix faible ne satisfaisait pas les oreilles exigeantes des aveugles. Aussi n'avait-elle aucun soupirant. Le moment arriva où Nunez se dit que, s'il pouvait l'obtenir, il se résignerait à vivre dans la vallée le reste de ses jours. Il la guetta. Il chercha les occasions de lui rendre de petits services, et bientôt il eut la certitude qu'elle le remarquait. Un jour de repos, à une assemblée, ils étaient assis côte à côte dans les ténèbres étoilées, et la musique était douce. Sa main rencontra celle de la jeune fille, et il osa la presser. Alors, très tendrement, elle répondit à sa pression. Une autre fois qu'ils prenaient leur repas dans l'obscurité, elle effleura de nouveau sa main, et, le feu ayant flambé tout à coup, il vit quelle tendresse exprimait ses traits. Il se décida à lui avouer ses sentiments. Un soir qu'elle installait son rouet devant la porte pour filer, il vint la rejoindre. La clarté de la lune la transformait en une mystérieuse statue d'argent. Il s'assit à ses pieds et lui dit combien il l'aimait et combien elle lui paraissait belle. Il avait une voix caressante, il parlait avec une tendresse respectueuse et comme apeurée. Et jamais encore elle n'avait entendu le langage de l'adoration. Elle ne lui donna aucune réponse définitive, mais il était clair que les paroles du jeune homme lui avaient plu. Dès lors, il causa avec elle chaque fois qu'il la rencontra. La vallée fut son univers, et le monde de par-delà les montagnes, où les hommes vivaient le jour à la lumière du soleil, sembla n'être plus qu'une fable merveilleuse qu'il lui raconterait quelque jour. Timidement et en hésitant, il se risqua à aborder le sujet de la vue. La jeune fille pensait que cette énigme était la plus poétique des fantaisies. Avec une indulgence qu'elle se figurait coupable, elle écoutait les descriptions qu'il lui donnait des astres, des montagnes et de sa calme et pâle beauté. Elle n'y croyait pas, elle ne comprenait qu'à moitié, mais elle était secrètement ravie. Et lui, tout à son rêve, s'imaginait qu'elle se représentait exactement toutes les splendeurs qui lui dépeignaient. Peu à peu, Nunez prit courage, et son amour devint moins craintif. Bientôt, il voulut demander sa main à Jacob et aux anciens de la vallée, mais elle en manifesta de l'inquiétude et le pria de différer cette démarche. Ce fut une de ses sœurs aînées qui, la première, prévint son père des amours de Medina Sarote et de Nunez. Ce projet de mariage souleva d'abord la plus vive opposition. Non pas que les aveugles fissent trop de cas de la jeune fille, mais parce qu'ils tenaient Nunez pour un être à part, idiot et incomplet, au-dessous du niveau permis à l'homme. Les sœurs de Medina Sarote se récrièrent amèrement, car une telle union devait jeter le discrédit sur elles toutes. Et le vieux Jacob, bien qu'il éprouvât à la longue une sorte d'affection pour son serf maladroit et soumis, secoua la tête et jugea la chose impossible. Les jeunes hommes s'irritaient à l'idée de cet abâtardissement de la race, et l'un d'eux s'emporta au point d'injurier et de frapper Nunez. Celui-ci rendit coup pour coup, et pour la première fois, la vue lui fut avantageuse, même dans la demi-obscurité. Après ce combat, personne ne s'aventura à lever la main sur lui, mais tous s'obstinaient à déclarer ce mariage impossible. Le vieux Jacob aimait tendrement sa dernière fille, et il était navré qu'elle vînt si souvent pleurer sur son épaule. « Tu comprends, ma chérie, c'est un idiot. Il a des hallucinations. Il ne peut rien faire de bien. » « Je le sais, » se lamentait Médina Sarrotée, « mais il n'est déjà plus comme au début. Son état s'améliore, et il est fort, mon père chéri. Il est bon, plus fort et meilleur qu'aucun des nôtres. Et il m'aime, père, et je l'aime. » Le pauvre père était grandement affligé de la désolation de sa fille, et son attachement pour Nouniez ajoutait à son chagrin. Une fois, il se rendit avec les autres anciens dans la salle sans fenêtre où siégeait le conseil, et, tout en prenant part à l'entretien, il trouva moyen, au moment opportun, de placer un mot au sujet de Nouniez. Son état s'améliore. Très vraisemblablement, il sera un jour aussi sain que nous-mêmes. Peu de temps après, un des anciens, qui savait penser profondément, trouva une solution. Parmi ce peuple, c'était lui le grand docteur, le guérisseur, et il avait un esprit inventif et philosophique. L'idée de délivrer Nouniez de ses particularités bizarres devait le séduire. À une séance à laquelle assistait Jacob, il amena la conversation sur Nouniez. « J'ai examiné Nouniez, déclara-t-il, et son cas me semble plus clair. Je pense qu'on pourrait le guérir. C'est ce que j'ai toujours espéré, s'écria le vieux Jacob. Son cerveau est atteint, assura le docteur aveugle. Les anciens eurent un murmure approbateur. Or, de quel mal est-il atteint? Et, fit Jacob. Voici, poursuivit le docteur, répondant à sa propre question. Ces choses bizarres qu'on appelle les yeux, et qui existent pour creuser une agréable dépression dans le visage, sont, dans le cas de Nouniez, malades au point d'affecter son cerveau. Ils sont extrêmement distendus, ils ont des poils et leurs paupières remuent. En conséquence, son cerveau est dans un état constant d'irritation et de distraction. « Oui, » répétait le vieux Jacob, « oui. » « Je crois pouvoir avancer avec une certitude raisonnable que, pour obtenir une cure radicale, tout ce qu'il faut faire est une opération chirurgicale simple et facile. Il ne s'agit que d'enlever ses corps irritants. Et alors il sera sain, et alors il sera parfaitement sain, et nous ferons de lui un citoyen admirable. « Que Dieu soit béni de nous avoir donné la science !» proclama le vieux Jacob. Et il partit aussitôt pour annoncer à Nouniez son heureux espoir. Mais la façon dont Nouniez reçut cette bonne nouvelle lui parut froide et le désappointa. « On croirait, d'après le ton que vous prenez, dit le vieux, que vous ne vous souciez guère de ma fille. » Ce fut Médina Sarrotée qui persuada Nouniez d'affronter les chirurgiens aveugles. « Oh, c'est vous, protestait Nouniez, qui voulez que je renonce au don de la vue. » Elle hocha la tête. Il continua. « Mais mon univers, c'est la vue. » Elle baissa la tête davantage. « Il existe tant de belles choses, de si belles petites choses. Les fleurs, les lichens parmi les rocs, les reflets et le chatoiement d'une fourrure, le ciel profond avec son duvet de nuages, les couchers de soleil et les astres. Et il y a vous. Pour vous seul, il est bon de posséder la vue. Il est bon de voir votre visage doux et serein, vos lèvres bienveillantes, vos chères et jolies mains jointes. C'est mes yeux que vous avez séduits, mes yeux qui me lient à vous, et c'est mes yeux que ces idiots veulent me prendre. Au lieu de vous contempler, il me faudrait vous toucher seulement, vous palper, vous entendre, et ne plus jamais vous voir. Il me faudrait entrer sous ce toit de roches, de pierres et de ténèbres, cet horrible plafond sous lequel votre imagination se courbe. Non, vous n'exigez pas que je consente à cela. Il se tut, ayant donné à sa phrase une intonation interrogative. Un doute désagréable s'était emparé de lui. Elle commença. « Parfois, je souhaite... » Et elle n'acheva pas. « Eh bien, questionna-t-il avec un peu d'appréhension. « Parfois, je souhaite que vous ne parliez plus comme cela. »«
Comme quoi ?»«
C'est très beau, je le sens. C'est encore votre imagination et elle me ravit, mais... » Un frisson glacial le secoua.
« Mais ?» fit-il d'une voix rauque.
Elle demeura parfaitement immobile et ne répondit pas.
« Vous voulez dire, vous croyez que je serais mieux, qu'il vaudrait mieux peut-être ?»
Il devina soudain les pensées de la jeune fille et suffoqua de colère contre le destin stupide, et en même temps, il se sentit envahi pour elle qui n'avait pas compris, d'une infinie sympathie, d'une sympathie qui était presque de la pitié.
« Ma chérie, » murmura-t-il passionnément.
La pâleur de la jeune fille lui indiqua combien elle souffrait de tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Il passa ses bras autour d'elle, lui baisa la joue, et ils restèrent ainsi quelques instants, silencieux. « Si je consentais à ce sacrifice, » insinua-t-il d'une voix qu'il avait faite très douce. Elle le serra contre son cœur en donnant libre cours à ses larmes. « Oh, si tu voulais !» sanglotait-elle. « Oh, si seulement tu voulais !» Pendant la semaine qui précéda l'opération qui devait l'élever de sa servitude et de son infériorité au rang de citoyen libre du pays des aveugles, Nunez ne goûta pas une minute de sommeil. Aux heures chaudes et ensoleillées où les autres dormaient heureux, il restait assis à réfléchir ou errait sans but, ramenant sans cesse son esprit sur le sacrifice de ses yeux. Il avait fait connaître sa réponse, il avait donné son consentement, et cependant, il n'était pas certain de lui-même. Enfin, la dernière nuit de labeur s'écoula. Le soleil baigna de splendeur les crêtes dorées, et le dernier jour commença pour lui, où il allait voir encore. Avant qu'elle s'en allât dormir, il eut quelques minutes d'entretien avec Médina Sarroté. Demain, lui dit-il, je ne verrai plus. Élu de mon cœur, répondit-elle en lui pressant les mains de toutes ses forces, ils ne vous feront presque pas souffrir, et vous allez endurer ces douleurs, subir cette épreuve pour moi, bien-aimé. Si la vie et l'amour d'une femme le peuvent, je vous rendrai tout cela, mon aimé, mon bien-aimé à la voix caressante, je vous rendrai tout cela. Plein de compassion pour lui-même et pour elle, il l'attira contre lui, unit ses lèvres aux siennes, et contempla, une dernière fois, son doux visage. Et à cette vue si chère, il murmura « Adieu, adieu !» Puis en silence, il se détourna. Elle écouta le bruit de ses pas qui s'éloignaient lentement, et le rythme traînant de la marche de Nunez l'attrista à tel point qu'elle éclata en sanglots. Il allait droit devant lui. Au cours de la nuit, il avait décidé de se rendre en un endroit écarté, d'où les prairies seraient belles de narcisses blancs, et d'y rester jusqu'à l'heure de son sacrifice. Mais tout en cheminant, il leva les yeux et il vit le matin qui descendait les pentes de la montagne comme un ange en armure d'or. Devant cette splendeur, il lui sembla que le monde aveugle de la vallée, et lui-même, et son amour n'était pas autre chose qu'un cauchemar infernal. Renonçant à la prairie des Narcisses, il continua d'avancer, franchit le mur d'enceinte et gagna les pentes rocheuses, les yeux fixés sur les glaciers et les neiges ensoleillées. Il vit leur beauté infinie, et son imagination prit l'essor vers les choses d'au-delà avec lesquelles il avait consenti à rompre pour toujours. Il pensa au monde vaste et libre dont il était séparé, à ce monde qui était le sien, et il eut la vision de pentes plus lointaines. Dans la distance, il crut voir Bogota, ville aux magnificences multiples et scintillantes, clarté glorieuse le jour, mystère lumineux la nuit, ville de palais et de fontaines, de statues et de maisons blanches. Il conçut qu'il serait possible, somme toute, après un jour ou deux d'escalade ou de descente par des passes et des défilés, de se rapprocher de ces places et de ces rues affairées. Il songea au voyage sur le fleuve, jour après jour, de Bogota la Grande jusqu'au monde plus vaste encore, par des villes et des villages, des forêts et des déserts au long du fleuve tourbillonnant, jusqu'à ce que ses rives reculent, que les steamers s'avancent dans un sillage écumant et qu'on ait atteint la mer sans limite, avec ses îles par centaines et par milliers, et ses navires entrevus dans la brume et sillonnant en tous sens le monde spacieux. Là-bas, sans que des montagnes le resserrent, on voit le ciel. Le ciel, et non pas le couvercle d'ici, mais une arche bleue sans limite, un abîme d'abîmes, dans lequel les astres décrivent leur course. Ses yeux, avec un intérêt plus vif, scrutèrent le rideau des montagnes. Si j'allais de ce côté, par ce ravin, jusqu'à cette cheminée plus loin, je sortirais au milieu des pins rabougris qui croissent sur cette plateforme. Et si je grimpais plus haut encore, je parviendrais à l'extrémité de la gorge. Et puis, ce talus pourrait être gravi facilement. De là, qui sait, il serait possible d'escalader la muraille du précipice qui monte jusqu'à la limite des neiges. Et ensuite, j'arriverais sur la neige ambrée et je serais à mi-chemin de la crête de ces magnifiques désolations, en supposant que j'ai de la chance. Il jeta un coup d'œil en arrière sur le village. Alors, se retournant, il le contempla, les bras croisés. Il pensa à Medina Sarote, et l'image de la jeune fille était minuscule dans l'éloignement. Tout à coup, il fit face à la pente de la montagne que la lumière matinale avait envahie sous ses yeux. Avec une extrême prudence, il commença l'ascension. Au coucher du soleil, il ne montait plus. Il avait atteint les hauteurs, très loin de la vallée des aveugles. Ses vêtements pendaient en loques, ses membres étaient ensanglantés et meurtris, mais il se prélassait sur le rocher et un sourire errait sur son visage. De l'endroit où il était couché, le vallon semblait perdu au fond d'un trou, un mille au moins plus bas. Déjà les brumes et l'ombre l'obscurcissaient, bien que les sommets autour de lui fussent encore embrasés de lumière et de flammes. Les sommets de la montagne étaient embrasés de lumière et de flammes, et les moindres recoins dans les rochers à portée de sa main étaient baignés d'une limpide beauté. Une veine verte transparaissait sous la roche grise, des cristaux scintillaient çà et là, des teintes oranges revêtaient un lichen exigu, minusculement superbe. Des ténèbres profondes et mystérieuses s'écroulaient dans la gorge, des bleus qui s'assombrissaient jusqu'au pourpre et des pourpres qui se transformaient en opacité lumineuse. Et au-dessus de sa tête s'étendait la libre immensité du ciel. Il cessa d'admirer ce spectacle et s'allongea, tranquille et souriant, comme si ce bonheur lui eût suffi de s'être échappé du pays des aveugles. Les lueurs du couchant s'éteignirent et ce fut la nuit. Et Núñez reposait sous les étoiles froides et claires.